Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Over the clouds, this life belongs to me. Soaking in warmth down to my day.
Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'hôte du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis doula. J'accompagne les futures familles dans la parentalité, mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman de quatre petites filles qui ont la chance d'avoir deux mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode.
Vous écoutez un des épisodes de la série dédiée à la Saint-Valentin du podcast Les enfants vont bien. Nous nous retrouvons cette semaine pour 8 épisodes spéciaux qui courront jusqu'au mardi 21 février. Ces épisodes me mettent toujours dans un good mood très contagieux d'ailleurs, tant ils sont vraiment plaisants à enregistrer. Oui, parce qu'après les enregistrements, je les raconte à Aude. D'ailleurs, il faut que je vous relate comment les filles ont découvert les podcasts à la maison. Lors de chaque trajet en voiture, surtout en montagne, nous devons trouver à les occuper pour éviter qu'elles ne soient malades. Il y a 3 ans, on a eu l'idée de leur diffuser des podcasts, mais à l'époque, peu étaient destinés aux enfants. Alors on a pioché ici, dans les épisodes de la Saint-Valentin. Et elles ont adoré, et le mot est faible. Du coup, maintenant, pour elles, un podcast est quasi un conte de fées. Elles en réclament tout le temps et râlent quand celui que nous leur choisissons ne correspond pas à leurs attentes. Cette année encore, les épisodes sont pleins de rebondissements, de facéties de la vie, de moments uniques et hors du temps. J'ai hâte qu'elles découvrent cette nouvelle saison sur la route des vacances. Je ne vous en dis pas plus et laisse la place à mes invités. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Amandine, bonjour Barbara.
Bonjour Constance.
Je rigole parce que je viens de faire une foirade de prénoms auxquels les auditeurs n'auront pas l'accès, mais c'est très rigolo. Bref, je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible pour cet enregistrement de la Saint-Valentin pour me raconter votre rencontre. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, ben déjà merci pour nous accueillir sur ce podcast.
Oh, ben de rien.
Dedans, du coup, pour une fois. Donc, moi, c'est Amandine, j'ai 31 ans et je suis française, parce que ça compte.
Et moi, je suis Barbara, j'ai 21 ans et je suis chilienne.
Ok, oui, d'où la précision de la nationalité. Et alors, Barbara, tu parles quand même avec un petit accent chilien, mais il y a un peu du sud. Amandine, tu es d'où, Amandine ? Vous êtes où, là ?
On est donc dans le sud de la France, pas très loin de Marseille.
Ça s'entend, mais je préférais quand même que tu le précises. Et alors, comment une Marseillaise et une Chilienne se rencontrent ?
Par la musique,
tu vois ? Oui, parce que d'abord, moi, j'étais au Chili. Mm-hmm. Et en 2020, on a décidé de faire une tournée avec mon groupe de folklore. Donc, on est venu en France, à Bordeaux, en février 2020.
Ah, mais t'es venu chez moi?
Oui. On a été tout le mois de février. Et dans mon groupe, il y avait un ami, Amandine.
D'accord.
Qui était aussi mon ami, du coup. Et il lui dit, viens nous voir. On est en train de faire une tournée. Ça va être chouette. Viens nous voir et tout. Et il y a Amandine qui arrive.
T'as fait Marseille-Bordeaux pour voir le...
C'est ça. En fait, cette année-là, j'avais décidé de démissionner. Et mon projet, c'était de faire le tour, un tour de France. Et donc, ça avait commencé justement, on va dire, mi-janvier. Et finalement, j'avais rien de prévu. Et j'ai fini par passer toute la tournée avec eux, donc les 3 semaines.
Excellent. Bon, c'était pas la bonne année pour démissionner et faire un tour de France, mais voilà, bon, ça...
J'allais dire, mon tour de France s'est arrêté à Bordeaux, finalement. En mars, je suis rentrée chez moi.
3 semaines de tour de France pour la place d'une année. Bon, c'est toujours ça.
C'est ça.
Et alors, du coup, tu as suivi toute la tournée, c'est-à-dire que vous avez fait quelle ville?
On a fait surtout Bordeaux et
les alentours.
Et on a fait aussi Paris. Et donc, dans notre, c'était un spectacle de chants de paysans, de chants des oiseaux et tout. Et on avait besoin de quelqu'un qui fasse l'interprète, qui parle espagnol et français. Donc, Amandine a fini par faire partie de notre spectacle.
Pour l'adapter au public, parce que le public, c'était pour des enfants. Donc, il fallait quelqu'un qui puisse raconter les chants en espagnol.
Et excellent.
Il a fini par... m'inclure au spectacle et je suis devenue un épouvantail pour raconter toute l'histoire des oiseaux chiliens aux enfants. Et voilà, donc on a fini par passer 3 semaines H24 vraiment tout le temps ensemble.
Mais l'épouvantail est pas censé faire peur aux oiseaux?
Non, il... disons que l'épouvantail connaît tous les oiseaux justement à force de l'observer.
C'est vrai, tu as raison. Et donc, vous avez passé 3 semaines, 24 heures sur 24, ensemble. Est-ce que, enfin, comment vous avez capté qu'il y avait quelque chose qui se passait entre vous? Bon, comme nous tous, on finit par capter, hein, mais.
Alors, justement, ça, c'est, on va dire, le cœur de l'histoire. C'est-à-dire que moi, j'ai rien capté, justement. Parce que j'avais jamais été avec une femme avant. Et la question, je ne me l'étais jamais posée du tout. Enfin, j'avais jamais eu de question. Mais disons que pendant ces 3 semaines, j'avais tout le temps envie d'être à côté de Barbara. Je sais pas pourquoi et c'était comme ça et au lieu de me poser des questions, je faisais quoi. Donc je la cherchais tout le temps du regard et nos regards se croisaient tout le temps finalement. Mais moi je me posais pas du tout de questions.
Oui, et de mon côté, moi oui, j'avais été déjà avec des filles et tout. Mm-hmm. Mais je voyais Amandine un peu comme quand on regarde des actrices dans le film, là, pas du tout possible. Je pense que, parce que normalement, j'ai l'impression qu'on peut sentir quand les personnes vont être aussi intéressées ou des choses comme ça, mais comme elle était pas, elle savait pas encore peut-être.
J'étais pas au courant moi-même.
Oui, je pense que.
L'information ne pouvait pas être communiquée.
Ouais, je pense que moi je le sentais pas et aussi dans ce groupe il y avait des enfants et tout et donc tout le monde rigolait et on disait Amandine et notre amie sont ensemble parce qu'elle elle était venue le voir et
pensait que j'étais peut-être avec mon amie en question.
Ouais, mais moi je la trouvais très belle et moi aussi je voulais être tout le temps avec elle. On rigolait tout le temps, on marchait ensemble parce qu'on a beaucoup marché parce qu'en plus de faire la tournée, on faisait du tourisme. Mm-hmm. On se cherchait tout le temps, on marchait ensemble, on parlait. Mais de mon côté, moi j'ai pas eu l'action de la chercher parce que j'étais sûre que ça allait pas arriver en fait.
T'as pas pris le risque.
On se cherchait beaucoup. Et voilà.
Ouais. Donc en fait, on l'a compris quand elle est repartie au Chili et qu'on était chacune dans nos confinements respectifs et que
on avait
que du temps pour parler et que enfin, comme j'ai dit. Que mon cœur se connecte avec mon cerveau et que je comprenne un petit peu et qu'au fur et à mesure de nos conversations à distance, on se rende compte que quand on était à Bordeaux ensemble, à ce moment-là, il y en a une qui avait ressenti ça et finalement l'autre, elle avait ressenti pareil, mais sans pouvoir l'exprimer en fait. Et au fur et à mesure, on se re-racontait ce qu'on avait vécu et au niveau des émotions, c'était la même chose partagée, sauf qu'on se l'était pas.
Oui, on l'avait pas dit.
Ah oui.
Ouais, voilà. Ah, ouais, ouais.
Et alors, comment ça se passe quand en 2020, on est confiné à peu près tout le temps, que les frontières sont fermées pour créer, pour créer une histoire, en fait. Enfin, il n'y a que le virtuel.
C'est ça. Mais, en plus, moi, dans mon année où je devais faire donc le Tour de France, en octobre, j'avais aussi déjà prévu de partir au Chili avant de les rencontrer, avant de rencontrer le groupe, parce que j'avais déjà des amis là-bas.
Et
j'avais mes billets, tout ça. Donc, en fait, on se parlait à distance en pensant qu'en octobre, j'arrivais au Chili de toute façon.
Oui, après se rencontrer.
Voilà, donc c'est vrai que c'était une connaissance à distance, mais ça a été une connaissance très profonde finalement, puisque ben on n'avait que ça à faire de nos journées, c'était de parler, parce qu'aucune
oui, c'est sûr.
Travaillait à ce moment-là. Donc vraiment, on parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps, en continu en fait. Et au bout d'un moment, on réalise que finalement, les frontières au Chili, ça sera vraiment pas possible. Et moi, je vais pas pouvoir y aller.
Ouais.
Donc là, on se dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et au final, en fait, on a découvert un groupe qui s'appelait Love is Not Tourism. Donc, ça concernait tous les couples qui étaient séparés par le Covid et donc qui voulaient trouver un moyen de se retrouver. Donc, avec ce groupe, on a trouvé beaucoup, beaucoup d'informations et on a fini par trouver que Barbara, en fait, ça serait le plus simple que ce soit elle qui vienne en France.
D'accord, parce que...
le plus simple, oui, entre guillemets, on passe les détails, mais oui, c'était pas si simple que ça, mais finalement, on a réussi à ce qu'au final, ce soit elle qui arrive à la même date, finalement, mais dans le sens inverse.
Oui. Donc... Comment vous avez fait avec les frontières fermées?
Oui, donc, il y avait déjà, le Chili, c'était vraiment fermé, et aussi la France, donc il y avait plusieurs petites options, par exemple, arriver en Croatie, et après venir en France parce que t'étais déjà dans un pays européen,
ouais.
Ou à Londres aussi. Donc on s'est dit, je vais à Londres, je dois faire une quarantaine de 15 jours à Londres et après je pourrais rentrer en France.
Donc nous, c'est l'option qu'on a choisie. Elle est passée par l'Angleterre. Oui.
Mais du coup, toi, tu pouvais sortir, mais personne pouvait rentrer, c'est ça?
Ouais,
au Chili. D'accord.
Oui, c'est ça. Et surtout, je pouvais pas sortir n'importe où. Enfin, c'était vraiment ces deux options-là. Et je devais venir avec des justificatifs parce que c'était avec du tourisme. Il y avait pas de visa à demander. Il y avait pas de visa de travail ni d'étudiant. Et moi, en étant chilien, j'avais droit à 6 mois du tourisme en Angleterre. Donc, on s'est dit, on part comme ça et après, on est passé par le train.
Voilà, en prenant le train après, voilà. Oui. On est arrivé justement, on est re-arrivé à Bordeaux.
Oui.
Et vous aviez réfléchi à l'option repartir dans l'autre sens?
Alors...
il fallait rentrer ou pas? Il y avait une obligation de rentrer?
Alors, non, justement. Donc, on va dire que la situation familiale de Barbara, elle était assez...
Elle était compliquée.
Compliquée.
Dans ma famille, c'était... Enfin, à résumer, j'avais pas le droit d'être avec des filles. Donc, c'était vraiment, vraiment compliqué. C'était une famille homophobe, une famille très traditionnelle. Là-bas, on n'est pas très ouvert encore. À cette époque, même, c'est comme il n'y a pas longtemps. Et du coup, de mon côté, moi, je ne pouvais pas juste dire « je vais en Europe pour être avec Amandine ».
Oui, oui. Donc, c'est une question que je voulais te poser hors micro, de savoir comment ça se passait au Chili, mais je me doutais que ce n'était pas forcément très ouvert.
Oui, mais ça me va de le partager aussi, je pense. Okay. Et donc, on a créé, en plus de trouver l'option de pouvoir venir, il fallait créer une option de...
Si une fois qu'elle sortait de chez elle, en gros, elle pouvait plus y retourner.
Non.
Oh là là, la prise de décision de fou, quoi.
C'est ça. Donc du coup, c'était un gros saut dans le vide. Et en plus, donc déjà avec ce contexte-là et avec le contexte du Covid, où on se disait, une fois qu'on arrive à se retrouver, en fait, il faut pas s'amuser à se séparer parce que on sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir se revoir encore. Et bon, donc on avait déjà fait 6 mois à distance et tout. Et on l'avait bien vécu, mais nous, on se voyait pas dans une relation à distance, ultra à distance, parce que bon, c'est pas...
Oui, j'ai un océan, là.
On avait voyagé 3 mois, que c'était ça, on avait 3 mois de tourisme chacune des côtés, enfin, France, au Chili et Chili.
Donc, au final...
avant de partir...
avant de partir, on s'était dit, ben alors, ben, bien, on se marie, quoi.
Ah ouais. Et ça, on va se retrouver pour les enregistrements des demandes en mariage. Hein.
Et en gros, ben Barbara, elle est partie du Chili avec toute sa vie dans 2 valises, plus tous ses papiers pour pouvoir se marier. Oui. Et voilà, et donc on avait tout anticipé. Et en gros, c'était soit ça marche pas, parce que c'est pendant ces 3 mois de visa. Elle peut se marier ou pas. Enfin, je veux dire, ils nous valident le mariage et il faut passer par toutes les étapes.
Oui, parce qu'en plus, on avait un temps très court.
Voilà, un temps limité. Et...
parce que j'avais que 3 mois en France, en fait.
Et il se trouve qu'on a eu sur le parcours que des oui, en fait.
Wow.
Des oui de nous, des oui administratifs, des oui, tout ça, tout ça.
Surtout de oui à nous, parce que oui, déjà, on a décidé de se marier, mais on savait jamais embrasser, en vrai. C'était... mais en même temps, je pense que c'était très évident.
Ouais, voilà.
Enfin, on le savait, on voulait pas.
Mais c'est vrai que les mariages binationaux, et particulièrement quand on se retrouve dans des configurations où on a besoin de valider pour pouvoir rester sur le territoire, souvent ça va vite, en fait. Mais les décisions, elles sont pas, enfin, les engagements sont pas les mêmes. Je pense qu'on s'engage dans une relation de façon moins légère. On sait très bien que voilà, l'ambition, elle est là parce qu'il y a une échéance, en fait.
Oui.
Donc en fait, voilà.
Parce que du coup, je suis venue en Angleterre et elle aussi, elle est venue en Angleterre. On a fait ma quarantaine ensemble, finalement.
Oh, génial.
Et donc, on a profité de ces 15 jours pour vraiment nous rencontrer, vraiment, physiquement nous découvrir et tout. Et après, on est, on est passé en France. J'avais ces 3 mois. Et on a fait tout, parce qu'Amandine, elle a commencé à faire les démarches aussi du mariage avant que j'arrive.
Pour que ça, pas autant de temps. Et voilà, et ça s'est fait, et on a fini par se marier le 28 décembre.
Ouais, et vous avez pas eu de difficultés parce que on était encore en confinement. Enfin, on a eu un confinement en novembre. Donc, les administrations étaient fermées. Enfin, sur les 3 mois, c'était intense, quoi.
Ouais, c'est ça. Ben, on a eu de la chance dans le sens où, moi, à ce moment-là, du coup, j'étais retournée vivre chez mes parents qui habitent dans une petite ville. Et donc, une petite mairie. Et disons que ça...
allait plus vite.
Parce il y avait des étapes qui passaient plus vite, en fait, parce que...
Oui, il y avait moins de personnes à faire des papiers.
C'est ça.
Aussi, je pense que finalement, comme c'était le Covid, il n'y avait pas
beaucoup de mariages. Voilà, je pense qu'on était quasiment les seuls mariages en décembre, en plus, 2020, quoi. Donc,
oui, le froid et tout aussi, ça ne donne pas les mariages.
Ouais, c'est
par contre, on a dû passer par entretien.
Ouais, voilà, la seule étape, c'est comme on est un couple binational, ça c'est de tout le temps, de toute façon, on doit passer un entretien pour savoir que
si on s'aime ou non.
Et voilà, donc du coup, voilà, ça a été, voilà, des étapes qui ont, enfin, c'était des étapes, quoi, mais finalement, on a réussi à.
Parce que toi, Barbara, du coup, t'as acquis la nationalité directement avec le mariage?
Non, pas du tout. D'accord. C'est que ce que j'allais obtenir, c'était un an de visa, mais en plus de se marier, je devais passer des journées d'appel.
Comme des journées d'appel,
donc venir dans
un organisme
et apprendre des choses sur la France, sur la santé, le travail, la retraite, comme une grosse information, passer un peu des tests de la langue. Moi, je parlais pas du tout, mais ils acceptaient quand même le tout premier niveau. Et après avoir passé ça, je pouvais demander de renouveler cette première année de visa. Mais j'ai pas eu encore la nationalité, c'est pas juste tu te maries et t'as tous les papiers, il faut.
Ouais.
Là, j'ai eu, donc c'était 2021, j'ai eu toute cette année. Après, il fallait renouveler, donc j'ai eu 2022, 2024, j'ai eu 2 années. Donc là, à la fin de 2023, je dois redemander pour 2 années ou pour 5 années, mais ça va pas me donner une nationalité.
D'accord.
Donc, okay. Si je veux la nationalité, il faut que je passe tout un procès différent et que c'est beaucoup plus loin, beaucoup plus long et beaucoup plus difficile.
Il n'y a pas un moment où, en fait, tu peux l'acquérir du fait du temps où, où tu es avec Amandine.
Non, et même si je vis ici depuis 50 ans, je
n'aurai pas automatiquement. En tout cas, voilà, ce n'est pas automatique.
Il faut passer quand même des tests et des prouver que tu as le droit d'avoir une nationalité française. Ou...
D'accord, ok.
Mais c'est ouais, c'est que j'ai comme droit, ce qui est bien, du coup, c'est que je peux avoir la...
Oui, après, accès. Elle a tous les droits.
Oui, place. comme si j'étais française, mais sans la nationalité, finalement. C'est-à-dire que je ne peux pas voter, par exemple. Mais je peux travailler sans problème, je peux étudier sans problème, je peux avoir
la sécu, la sécurité, tout ça. Et... Mm-hmm. Oui. Ok. Et Amandine, tout à l'heure, t'as mentionné tes parents. Mm-hmm. Comment est-ce qu'ils ont vécu, eux, ce mariage surprise?
Eh bien, très bien, finalement.
Oui, de ton côté, c'était.
Ouais, moi, de mes parents, en tout cas, je leur ai. Alors, au début, je voulais garder un peu l'information. Je disais, ben, il y a Barbara qui va venir, c'est bon. Mais je voulais pas dire de suite qu'on allait se marier parce que je me disais, mais ils vont dire que. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui va pas, quoi. Enfin, bon. Donc, je gardais le plus possible l'information et puis. Et en fait, moi, j'arrive pas trop à garder les informations, justement. C'est pas mon fort. Donc, un jour, en discutant avec mes parents, elle insistait un peu. Ma mère, elle dit, mais elle va faire comment après pour rester et tout. Et puis là, bon, je commence à avoir un sourire et je dis, bon, ben, en fait, voilà, on va se marier, quoi. Et puis mon père, il dit, ben, je le savais, de toute façon.
Mais attends, mais t'imagines le trajet qu'ont dû faire tes parents. Ils ont découvert que tu étais avec une fille et que t'allais te marier d'un coup d'un seul, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est ça. En gros, je leur ai annoncé vraiment au fur et à mesure. Enfin, dès que... Enfin, ouais, au fur et à mesure que c'était clair pour moi, je leur disais... C'est vrai que j'ai toujours eu, enfin j'ai des fois fait des choix de parcours qui étaient un peu hors parcours justement, mm-hmm. et ils m'ont toujours accompagnée pour ça, et ben là c'était encore une étape dans le parcours, c'était assez atypique, mais ouais, ils nous ont vraiment ben, plus qu'accompagnée, puisque pendant quand même 5 mois je pense on habitait encore chez eux, 6 mois peut-être,
wow.
Voilà, ils nous ont accueillis, tout ça, donc voilà, ils ont partagé avec nous nos décisions et
la joie de notre
ouais la joie aussi, donc c'était
ah c'est super, franchement c'est une super belle histoire de rencontre, c'est magique. Franchement, vous me faites commencer ma matinée là, ouh. Pleine de good vibes. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on sera amené à continuer à se raconter des choses avec grand plaisir, en tout cas. Et puis, on va passer la main à notre couple.
Super, merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous. Living in the moment.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.